17h, 17h30, votre mag du Tarn-et-Garonne avec les pépinières Ronchini à Nègrepelisse. Pépinières Ronchini, plantez le décor en Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. Le MAC du Tarn-et-Garonne, partenaire du festival Lettres d'automne, a encore le plaisir d'accueillir un auteur. Aujourd'hui c'est Jean-Pierre Siméon, auteur, poète, dramaturge, surtout poète, hein, c'est comme ça qu'il aime à être présenté. Au niveau national, on le connaît, Jean-Pierre Siméon, bien sûr au travers de ses ouvrages, mais à travers de cette grande manifestation qu'est le Printemps des Poètes, que vous dirigez. Bonjour Jean-Pierre Siméon.
Bonjour.
Merci d'être là, on va avoir une conversation autour de la poésie aujourd'hui, des poèmes, et de la poésie qui devra, selon vous, sauver le monde, puisque c'est le titre de votre dernier essai. Merci d'être là, je vous donne la parole dans un instant. Mais d'abord, la poésie c'est aussi la chanson, et celle de Danny Buckton Trio n'en est pas... il y en a de la poésie dans dans les chansons de Danny Buckton Trio, qui sera à Donzac, voilà, c'est ça, c'est à Donzac, et c'est dimanche dans le cadre de Chansons en balade. Danny est avec nous par téléphone. Allô Danny?
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous pour faire connaissance. Comment est né votre trio?
Notre trio, il est né parce que moi, je chantais des chansons en solo, déjà. Je faisais pas mal de concerts toutes les semaines à Paris, il y a 3 ans de ça, en 2013. Et puis, j'ai rencontré des musiciens qui sont venus me voir à un concert et qui avaient envie de mettre de la musique sur ces textes-là en plus et de les arranger. Donc, on s'est bien entendu, on a essayé, et puis ça a marché, de fil en aiguille. Voilà, ça n'a fait que se construire.
Alors, vous êtes plutôt jeune et vous donnez dans la chanson française à texte, comme on dit, chanson plutôt poétique. Jusque-là, ça va, comme définition?
Ouais, c'est ça, c'est un peu c'est l'envie de départ, en tout cas. Moi, j'ai toujours aimé écrire pour essayer de faire des jolies choses avec les mots. Voilà, essayer de façonner ça bien. Et puis maintenant qu'on est en trio... on essaye d'en faire autant avec la musique et c'est un plaisir.
On va parler de poésie ce soir avec Jean-Pierre Siméon qui est dans notre studio. La poésie seule, ça vous pratiquez aussi également ou bien uniquement enrobé de musique pour faire des chansons?
Toujours avec l'oralité. Je faisais du théâtre avant, donc à chaque fois que j'écris, j'ai toujours eu envie de dire soit de dire les textes, soit de les chanter, mais pas de les laisser. J'aime bien les interpréter après, en fait. J'ai besoin de ça, moi.
Alors c'est trio. Il y a un saxo, je crois, hein, c'est ça.
Voilà, saxophone, baryton.
Ouais. Guitare, batterie, ouais. Ou plutôt percu, quoi.
Voilà, c'est ça. Il y a un guitariste batteur qui fait les deux en même temps. Et puis le saxophone baryton qui de temps en temps joue du mélodica, du métallophone, du glockenspiel, enfin des petits instruments comme ça.
Voilà, et puis derrière vous à l'écriture des textes, on va écouter un morceau dont je n'ai pas su dire au départ si c'était une de vos compositions ou si c'était une composition d'un artiste du début du siècle, genre Aristide Bruand. J'ai trouvé une relation comme ça, peut-être simplement parce que ça parle d'un lieu à Paris où je me trompe.
C'est laquelle, le QG?
Rue Montorgueil.
Rue Montorgueil.
Ah, Montorgueil. Ouais, c'est une des nôtres. ça parle de cette rue, et puis de la curiosité de savoir le visage qu'aura une certaine personne un jour. Mais voilà.
Ah bon, on l'écoute et puis on se donne rendez-vous à dimanche à Donzac dans le cadre de Chansons en balade.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Salut Danny.
Je ne sais pas comment tu t'appelles, ni si t'es belle, ni si t'existes. C'est peut-être pas dans les poubelles que je vais trouver une piste. Il faut peut-être que j'aille voir ailleurs, rue Montorgueil ou place Vendôme. Peut-être que tu portes un tailleur et que t'es bardé de diplômes. Si je ne t'ai jamais rencontré, c'est sûrement que c'est mieux comme ça. Peut-être que t'as pas encore l'âge, ou que je suis trop jeune pour toi. Mais si t'es la voisine du dessus, qu'est-ce que t'attends pour venir me voir? J'ai de la farine et du café, tout ce qui dépanne dans les tiroirs. Je ne sais pas comment tu t'appelles, ni si t'es belle, ni si t'existes. Je sais que je suis pas éternel, et que tu joues les absentéistes. Il faut peut-être que j'aille voir ailleurs, chez les garçons, les androgynes. Peut-être que t'es aussi chanteur et que tu t'appelles Marilyn. Si tu savais le nombre de fois où je dors en rêvant de toi. T'es ma geisha rue Masséna, ou t'es ma jasmine rue de la Chine. Des fois je rêve que t'as une sœur, et qu'elle aussi c'est mon âme sœur. Le soir on s'en va tous les trois chanter la vie à opéra. Je ne sais pas comment tu t'appelles, ni si t'es belle, ni si t'existes. Mais le jeu en vaut la chandelle, à ce qui paraît alors je persiste. Il faut peut-être que je fiche le camp, que je le fasse autour du monde. Avec la chance que j'ai tout le temps, tu seras à l'autre bout de la map monde. Si tu savais le nombre de femmes avec lesquelles je t'ai confondu, tu prendrais plus la peine de venir, ou alors pour me taper dessus. Mais si c'est toi la vraie, l'élu, je te mentirais, tu ne sauras rien. Je te dirais que t'es le soleil qui me fait lever chaque matin. Je ne sais pas comment tu t'appelles, ni si t'es belle, ni si t'existes. Si j'avais ce don du ciel, je commencerais par la fin de la liste. Peu importe que je fiche le camp, ou que j'attende dans mon fauteuil. Tu me snobes depuis si longtemps, que j'entreprends de faire ton deuil. Si je savais comment t'inventer, je te ferais un peu mieux qu'une chanson. Donnez-moi de la pâte à modeler qui se transforme en chair à canon. Et si je pouvais te faire parler, tu me répondrais dans cette chanson, avec une voix d'ange délavée, que je suis beau comme un Apollon.
Danny Buckton, trio rue Montorgueil, donc à découvrir sur scène dans le cadre de Chansons en balade, ce dimanche à Donzac. Et nous voici en compagnie de Jean-Pierre Siméron. Alors ce soir vous serez à l'ancien, non c'est pas l'ancien collège,
aux Augustins,
au théâtre des Augustins, voilà. Pour une rencontre autour de La poésie sauvera le monde, votre dernier essai. Alors je tiens à vous dire, Jean-Pierre Siméron, que autant lire la poésie et lire les romans, c'est facile et ça me ravit dans mon métier quand je dois recevoir un auteur et lire ses poèmes ou ses romans. Mais alors, s'attaquer à votre essai « La poésie sauvera le monde », ça a été pas facile pour moi, vous savez.
Oui, je comprends. Mais vous savez, c'est un essai. Un essai, c'est un effort de réflexion. C'est un essai de réflexion, oui, de synthétiser des points de vue complexes, voilà. Donc, évidemment, ça demande un effort de lecture, mais je crois que tout le monde est capable de cet effort. Tout le monde est capable de faire, par exemple, des efforts avec son corps quand on demande de faire du jogging, du stretching, de je sais pas, ouais, tous les machin-ing qui pour avoir le ventre plat. Et pourquoi on ferait pas des efforts intellectuels? Enfin, voilà. Et je pense simplement à un petit effort de concentration.
C'est vrai.
Mais voilà, c'est pas non plus une...
Non, mais c'est-à-dire, c'est un peu comme s'attaquer. Pour moi, c'est justement, si on prend la métaphore sportive, hein, c'est un peu comme si demain j'avais dû courir un marathon alors que...
Alors il faut s'entraîner un peu, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais il faut s'entraîner à lire un petit peu tous les jours, et après c'est aussi facile que de lire un philosophe ou un essayiste, il me semble. Mais enfin, quand même, je crois que avec cet effort, un petit effort, si on prend le temps, il faut le temps, c'est tout. La réflexion, oui, demande du temps de toute façon.
J'ai quand même réussi à trouver ça et là des choses sur lesquelles j'ai pu m'arrêter et sur lesquelles justement ma réflexion a pu progresser. Juste par exemple cette phrase d'Odysseas, comment s'appelle-t-il ?
Élitis. Voilà. Odysseas Élitis, qui est un grand grand poète grec.
Ouais. Là où la montagne dépasse du mot qui la désigne, se trouve un poète, un poème. Non, un poète, c'est ça.
Un poète, oui, oui.
Voilà.
Voilà, mais ça dit tout de l'enjeu de la poésie et de ce qui nous manque. Vous savez, on parle beaucoup. Regardez, jamais on a parlé autant dans l'histoire de l'humanité. Il y a des radios, il y a des télés, il y a des MP3, il y a de la parole même écrite partout. Enfin, on baigne dans du langage, mais ça ne dit pas grand-chose. Ce langage, il est souvent la reproduction de ce qu'on sait déjà, de
tautologique,
choses évidentes.
Tautologique.
Oui, le mot est marrant, en plus. Oui. Le mot tautologique, c'est-à-dire, la chose ne dit que ce qu'on sait déjà.
On enfonce des portes ouvertes.
Ouais. Mais oui. Et le langage sert bien sûr à ça. Dans la vie quotidienne, on a besoin d'être efficace, que le langage qu'on emploie soit immédiatement compris, donc simple, basique, on va dire. Oui, mais alors, à force d'employer ce langage basique, on ne dit rien de la réalité que ce qu'elle est déjà. Et on sait qu'elle est bien plus complexe, qu'elle a une profondeur infinie, et que chacun d'entre nous a une profondeur infinie. Et pour dire cette profondeur infinie, il faut un autre langage. Et c'est le langage des poètes. Là où le mot dit plus que ce qu'il dit habituellement. Là où la montagne dépasse du mot qui la désigne. Si vous voulez, dans un poème, le mot désigne beaucoup plus que ce qu'il désigne ordinairement. C'est ça l'effort de lecture du poème, qui est un effort d'attention et d'écoute. C'est simplement laisser apparaître derrière le mot toutes les résonances du mot. Et ces résonances du mot, nous les portons en nous. Si je dis vague, mer, montagne, rocher ou pierre, chacun a vu la montagne, la mer, le rocher et la pierre, et en a une expérience très différente de son voisin. Absolument. Et donc, si on se met à l'écoute de soi-même aussi, de son expérience de vie, alors on renoue à travers le langage poétique, on renoue avec l'expérience profonde de la vie. Une expérience vraie et pas celle des clichés, des schémas, des stéréotypes, de la montagne telle qu'on la voit dans les magazines de tourisme, etc. Avec ce qu'on a vécu profondément, ce qu'on a traversé avec son corps, en sentant le vent, en marchant sur la pierre ou sur le rocher, dans l'effort. Tout d'un coup, tout revient dans le poème.
Mais Jean-Pierre Siméon, est-ce que une fois qu'on a quitté les bancs de l'école, le poème n'est pas devenu quelque chose d'un peu has-been en quelque sorte? Et est-ce que c'est pas justement la chanson, le rap, le slam aujourd'hui qui sauve la poésie dans notre quotidien? Je crois que vous préconisez d'ailleurs quelque part dans votre livre d'avoir des vitamines tous les jours et un poème. Hein, c'est genre 5.
Non mais moi, le combat
5 fruits et légumes et un poème.
Le combat de toute ma vie, et je suis pas le seul, on est un certain nombre comme ça. C'est justement d'essayer de convaincre que la poésie n'est pas le fait de l'école seulement. Moi, j'étais professeur, j'enseignais la poésie, et je suis heureux de l'avoir fait, de témoigner de ma passion pour la poésie. Mais c'est en dehors de l'école, après l'école, qu'on a besoin de poésie, encore plus peut-être. On a toujours besoin tous de ça, de cette part manquante en nous, n'est-ce pas? Qu'un poème, un vers peut-être, ça suffit, un très court poème nous livre immédiatement. Et à tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, n'est-ce pas? Et donc, ce que je plaide pour que tout le monde se nourrisse à la source des poèmes, simplement. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, il n'y a pas besoin de lire un livre de poèmes tous les mois. De temps en temps, revenons à la source.
La chanson nous y emmène quand même.
Alors, la poésie, évidemment, c'est une manière de dire le monde, de sentir le monde de façon intense. Et ça se retrouve dans tous les arts. Évidemment, je dis même que la poésie est au cœur de tous les arts. C'est le geste poétique qui est premier. C'est cette façon, justement, de ne pas s'en tenir à la surface du monde et d'essayer d'aller dans la profondeur. Alors, évidemment, ça apparaît dans tous les arts et parfois, pas toujours, hein. Parfois, parce que parfois c'est le contraire, parfois dans la chanson, évidemment dans le théâtre, dans la danse. Et moi, je suis passionné de théâtre, vous le savez, donc dans les autres arts. Maintenant, là où on trouve la plus forte teneur en poésie, c'est quand même dans le poème. Voilà, c'est tout.
Un petit peu de musique et puis on revient en conversation avec Jean-Pierre Siméon, invité pour ses lettres d'automne à une rencontre lecture accompagnée de Maurice Petit, ce soir dès 21h à l'espace des Augustins.
Sunday, Monday, hanging with your man. I know you aren't the one that's creeping. You are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring it on, bring it to me. You are the one that's creeping. You are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring it on, bring it to me.
John Newman, c'était Cheating. Vous écoutez CFM, c'est votre Mac départemental. Et ce soir, on reçoit Jean-Pierre Siméon. Qu'ont-ils fait, papa? Qu'ont-ils fait de leurs mains de plume? Envolé, mon garçon, envolé dans le vent. Qu'ont-ils fait, papa? Qu'ont-ils fait de leurs yeux si doux? Perdu, mon garçon, perdu dans la nuit. Qu'ont-ils fait, papa? Qu'ont-ils fait du ruisseau de leur joie? Oublié, mon garçon, jeté dans le fossé. Qu'ont-ils fait, papa? Qu'ont-ils fait des mots de leurs poèmes? J'ai bien peur, mon garçon, qu'ils ne les aiment plus. Mauvais rêve de Jean-Pierre Siméon, extrait de À l'aube du buisson, collection Poèmes pour grandir.
Mmh. C'était un poème écrit pour mon fils, pour de vrai, qui fait suite à des questions. Voilà, moi j'ai élevé mes enfants dans comme tous les enfants, hein, ils lisaient de la BD, ils allaient au sport et tout, mais aussi dans ce goût de la poésie, des histoires, mais de la poésie beaucoup, et puis ils posaient des questions, pour eux ça leur paraissait naturel, alors pourquoi les gens n'écoutent pas de poésie, pourquoi ils n'en lisent pas, papa, toi tu nous en lis tout le temps, voilà, donc j'ai fait ce poème.
Aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux, la rapidité de l'information, c'est une chance ou un frein pour la propagation de la poésie ?
Non, d'abord, c'est une donnée objective. Moi, je me sers de la technologie comme tout le monde. Je vis dans mon temps, n'est-ce pas ? Après, le problème, par exemple, de tous ces outils technologiques, c'est qu'ils nous entraînent dans une rapidité qui nous laisse dans la surface des choses. Même, par exemple, ce qu'on appelle les amis sur Facebook, tout ça, c'est quand même de faux amis, quoi. C'est pas de vrais amis. Un vrai ami, ça, c'est dans la fréquentation, la rencontre vraie au bistrot, en buvant une bière, etc. C'est là que se construit vraiment la relation humaine. Et on fait tout trop vite aujourd'hui, et on est dans un ersatz de vie, on n'est pas dans la vie réelle qui prend son temps. Et donc, la poésie est un peu antinomique de ça, parce qu'elle demande du retrait, du silence. Une demande d'une rupture dans le temps, de la lenteur. Et quel plaisir! C'est comme tout d'un coup on lâche tout et on va marcher sur un chemin sous les arbres et tout d'un coup on se sent revivre. Alors voilà, ceci dit, après l'outil technologique que par exemple le net, ça peut servir à la diffusion de la poésie évidemment, mais ça sert plutôt à la diffusion de l'information. Je crois. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations qui circulent qu'il n'y a plus de hiérarchie dans l'information, que tout s'annule d'une certaine façon. Comment on s'y retrouve,
vous voyez ? Peut-être justement par ces fameux amis qui peuvent devenir des prescripteurs et tout d'un coup, une personne qu'on suit, soit via Twitter, soit via Facebook, qui va et qu'on aime bien, qui est plutôt de bons conseils et qui va nous envoyer tout d'un coup un poème de Jean-Pierre Siméon. Et donc, on va s'arrêter dans ce flot d'informations continues. On va s'arrêter peut-être justement 10 minutes et lire ce poème.
Peut-être, c'est un pari que je fais. D'ailleurs, le Printemps des Poètes a un site, vous pouvez le regarder, qui est très riche, qui est ouvert à tout le monde, où on lit des poèmes, on lit des informations sur la poésie. Je crois que ça, c'est bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de revues en ligne maintenant. Avant, c'était des revues papier. Il y en a encore en papier. Je crois que les choses ne s'opposent pas, ne s'annulent pas les unes les autres. Elles se complètent. Donc, moi, je crois qu'il faut vivre avec son temps et utiliser ces outils-là. Et il faut aussi garder le temps du livre, par exemple. Moi, je crois que le livre ne s'effacera pas. Simplement, c'est un autre usage de la lecture, c'est un autre temps que réclame le livre. Quand on est dans le livre, le temps change, n'est-ce pas ? Alors que quand on est devant Internet, on est dans le flux ininterrompu du temps qui court, de la vie d'aujourd'hui, quoi. Et c'est bien d'avoir ce retrait. La poésie nous offre ce retrait. Donc, vous voyez, le point de vue est paradoxal, peut-être contradictoire, mais il faut accepter la contradiction. Il faut user les deux. Moi, je cours beaucoup pour plaider pour la poésie. Je vais d'une ville à l'autre. J'utilise les moyens informatiques. J'ai une tablette. J'ai tout ce qu'il faut de ce point de vue-là. Mais en même temps, je me déplace et j'informe pour dire prenez le temps de l'arrêt. Et le poème est un temps de la lenteur, de la reconcentration sur soi et dans son et aussi sur son rapport avec les autres, avec le paysage, avec les visages, avec le monde. C'est précieux. redonnez-vous ça, ce plaisir-là.
Ça, ça oblige aussi à aller chercher dans la profondeur et la foultitude du mot de la langue française, des mots de la langue française.
Mais c'est ça qu'on perd. C'est normal, tout s'accélère et on accélère aussi notre débit de parole. On parle très très vite. Moi, combien de fois je parle dans les radios ou même parfois à la télé, on nous demande d'aller très très vite, de dire le maximum de choses en très peu de mots. Forcément, on schématise, on simplifie. Là, on a un peu de temps pour s'exprimer, c'est une chance. Et donc, la poésie, notamment la poésie, parce que c'est son souci depuis toujours, depuis qu'il y a des hommes, il y a des poètes, son souci, c'est de dire le plus possible en prenant le temps et en donnant à la langue tous les droits. Le droit de l'indécision, de l'incertitude, le droit de la rêverie, etc. Alors que dans la vie ordinaire, il faut aller vite, il faut dire une chose et qu'elle soit comprise tout de suite. Le poème, il dit « comprends-moi pas tout de suite ». Prends ton temps. Mais enfin, comment on rencontre les gens? Celui qui me dit, un homme ou une femme qui me dit, me comprends pas tout de suite, prends ton temps, c'est bien. C'est comme ça qu'on connaît vraiment les gens, en prenant le temps.
Dans le Printemps des Poètes, comment est-ce que vous faites pour choisir la thématique chaque année que vous allez imprimer comme ça, cette grande manifestation nationale?
Oui, c'est une question qui est juste parce que c'est moi qui prends cette décision chaque année. Écoutez, il y a plusieurs critères, disons. Le thème, c'est un thème fédérateur qui cherche à faire que tout le monde ait un point commun, mais en même temps ça ne nie pas la variété des expériences, des tentatives ou voilà des propositions. Mais par exemple le thème il a une fonction un peu pédagogique. Je voudrais amener les gens à lire l'immense répertoire poétique français, étranger, d'hier et d'aujourd'hui. Il faut aimer Villon comme il faut aimer Aragon ou René Char ou Yves Bonnefoy. Tout ça va ensemble, n'est-ce pas? Et je voudrais que les thèmes incitent les gens. C'est une manière, un tremplin, une manière de les amener à visiter telle ou telle poésie. Alors, par exemple, une année, on avait mis l'accent sur la poésie du monde entier, les poètes traduits. Parfois, on avait mis l'accent sur la poésie écrite par les femmes. Parce que la poésie, la littérature, ça a été machiste hein, en France et en Europe pendant des siècles. Et il y a des femmes qui écrivent la poésie, souvent on les connaît moins. Donc je voulais qu'on ait ce regard-là. Vous voyez, c'est très variable d'une année à l'autre. Là, je voulais tout d'un coup, je me suis dit, il faut qu'on relise les grands poètes du XXe siècle. Vous savez, les Prévert, Aragon, Éluard, Apollinaire, on connaît leurs noms, mais est-ce qu'on les lit vraiment? Est-ce que les gens qui nous écoutent, ils connaissent plus d'un ou deux poèmes de ces poètes-là?
Ceux qu'ils ont appris à l'école, généralement.
Ah oui, voilà. Alors qu'ils ont écrit, tous ces gens-là ont écrit des milliers de poèmes et qu'il y a des trésors immenses, accessibles à tous. On passe à côté et le plaisir de relire un poème d'Apollinaire qu'on ne connaît pas justement, ou même de Prévert qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas, c'est un plaisir immense, c'est une redécouverte. Et donc je voulais qu'on relise tout le XXe siècle. On est en 2015, on a un peu de recul, on sait quels sont les grands poètes du XXe siècle, ceux dont la voix continue de porter, eh bien relisons-les.
Jean-Pierre Siméon, je rappelle que tout à l'heure vous serez en compagnie de Maurice Petit pour une rencontre, lecture autour de votre essai « La poésie sauvera le monde ». En ces temps sombres que l'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est pas un titre un peu en décalage, « La poésie sauvera le monde » ?
Non, justement, je crois que ça a plus de pertinence que jamais, d'ailleurs certains me l'ont dit. Parce que vous comprenez, pour comprendre une phrase pareille, pour l'accepter, il faut qu'on ait une idée juste de la poésie. Évidemment, si la poésie, c'est la petite distraction charmante ou le pot de fleurs sur la table qui égaye un petit peu, le superflu élégant, alors c'est pas ça dont je parle, évidemment. Ce dont je parle, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux que ça, plus radical que ça. Ce qu'est la poésie, c'est une manière de vivre, d'habiter le monde, de s'habiter soi-même. C'est une question de relation au monde et aux autres. Et cette façon d'être, c'est celle de Rimbaud, c'est celle de Van Gogh aussi. C'est pas, je pourrais préciser plein de grands artistes. C'est cette façon intransigeante d'être intense dans la vie, d'être dans le plein de l'existence, dans la relation heureuse et positive aux autres, dans le questionnement de la conscience qui ne se résout pas aux réponses toutes faites, totalitaires, intègres, intégrales, intégristes. Vous voyez ce que je veux dire? Qui au contraire prend plaisir Parce que c'est ça, l'humain a la multiplicité des sens, à l'interrogation perpétuelle, à l'inquiétude du sens, n'est-ce pas? Mais c'est une joie aussi, ça veut dire que tous les possibles sont là. Parce que dès qu'on ferme le sens des choses, dès qu'on croit que notre vie a un seul sens, que nous-mêmes, nous sommes une catégorie, une fonction, etc., on tue la vie, on s'enferme, et on devient très vite des êtres étroits. Et on perd notre humanité. Donc la poésie, c'est justement le contraire de ça. C'est ce qui nous incite, vous voyez, la position poétique que tout le monde peut partager. J'y tiens, l'état de poésie, tout le monde peut le partager. C'est, ça nous incite à vivre intensément, à être toujours plus exigeants avec nous-mêmes dans le regard qu'on a sur les choses, sur un arbre, sur le visage qu'on croise, sur un amour, sur une mort, sur une souffrance. Que on sort des stéréotypes qui sont balancés à tour de fiction et de à tour de bras, je veux dire, par les fictions, les séries télé, etc. On n'est que dans des stéréotypes. On dit la plupart du temps que des stéréotypes de la vie. La poésie nous donne le contraire, je crois exactement. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de cette parole franche et vraie qui va dans la profondeur et qui nous incite à l'ardeur, au mouvement positif. Qui nous dit rien n'est jamais clos, n'est-ce pas? Ne restez même une mort se dépasse, n'est-ce pas? Voilà. Donc je crois que Giono disait les poètes sont des professeurs d'espérance, doivent être des professeurs d'espérance. Oui, ça veut pas dire bêtement qu'il dit tout est beau, tout va bien, regardez les petites fleurs. Pas du tout. Les poètes sont les plus réalistes des gens. Ils voient très bien, tous les poèmes le disent, la mort, la souffrance, etc. Mais contre la mort et la souffrance, ils réaffirment toujours le prestige de la vie, la force de et l'élan et l'ardeur de vivre.
Merci Jean-Pierre Siméon pour vos paroles, d'autres paroles ce soir, donc à partir de 21h à l'Espace des Augustins en compagnie de Maurice Petit autour de votre dernier essai « La poésie sauvera le monde ». Merci d'être passé.
Merci beaucoup.
C'était le MAG du Tarn-et-Garonne avec les pépinières Ronchini à Nègrepelisse. Pépinières Ronchini, une équipe à votre écoute.
C'est